Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 13h, bienvenue dans Affaires suivantes, ravi de vous retrouver avec mon complice Dominique Rizet.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Au programme cette semaine, le procès qui divise l'Amérique et un verdict impossible. Lindsay Clancy, accusée d'un triple infanticide, celui de ses trois enfants. Elle a plaidé non coupable en proie à une dépression postpartum et faute d'unanimité, eh bien le verdict a été annulé. Juger et comprendre, c'est la question du jour.
Deux séries de coups de feu à 6h du matin en plein Paris, c'est comme ça que Federico Aramburu, ex-rugbyman argentin qui vivait en France, est mort un matin de mars 2022. Ses meurtriers présumés seront jugés à partir de demain devant la cour d'assises de Paris. La parole est à la défense cette fois-ci. On avait reçu les parties civiles dans notre émission.
Et puis nous partirons en liberté avec le bédéiste Mathieu Sapin qui s'est plongé 12 mois en immersion dans des lieux clos. La prison, le commissariat, l'hôpital psychiatrique, des lieux de privation de liberté. Sa contrôleuse générale viendra aussi nous éclairer.
Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
Bienvenue dans Affaires suivantes. On va parler d'abord d'un procès ultra médiatisé, finalement annulé. Ça se passe aux États-Unis. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le verdict concernant Lindsay Clancy, cette mère de famille de 36 ans qui a tué ses trois enfants. Explication d'abord avec Pierre-Louis Brousset.
Des jours entiers passés à délibérer, mais finalement impossible pour les jurés de s'accorder à l'unanimité sur un verdict dans le procès de Lindsay Clancy.
Je vais déclarer que le jury est bloqué et que le procès est annulé.
Dernier développement d'une affaire judiciaire surmédiatisée qui divise la société américaine. Lindsay Clancy était jugée pour le meurtre de ses trois enfants. Leur corps avait été retrouvé par leur père en janvier 2023 dans la cave de la maison familiale. Cette infirmière de 36 ans, désormais en fauteuil roulant après une tentative de suicide, a reconnu les faits, mais a aussi décidé de plaider non coupable. Sa défense avance une irresponsabilité pénale en raison d'une psychose postpartum, une dégradation sévère de son état mental depuis son dernier accouchement qui l'aurait poussé à l'irréparable.
Elle a dit aux médecins qu'elle avait des tendances suicidaires. Elle leur a dit qu'elle avait des pensées noires. Et en décembre, elle a confié à son mari, en présence de sa mère, qu'elle avait des pensées psychotiques dans lesquelles elle imaginait faire du mal aux enfants.
Une version des faits rejetée par l'accusation, pour qui Lindsay Clancy avait prémédité son geste, notamment en envoyant son mari faire des courses pour l'éloigner suffisamment longtemps du domicile familial.
Il ne s'agissait pas d'une femme en proie à une psychose ce 24 janvier 2023. Il s'agissait d'une femme qui a agi de manière intentionnelle, rationnelle et rapide pour atteindre un objectif très précis, tuer.
L'affaire Lindsay Clancy reste pour l'heure en suspens. Un nouveau procès pourrait se tenir prochainement avec un nouveau jury.
Avec nous, Maître Isabelle Steyer, avocate et cofondatrice du collectif Action juridique féministe. Merci, Maître, d'être avec nous. Qu'est-ce qu'il faut lire à travers ce procès et ce verdict impossible ?
Ah, je trouve que c'est un positionnement extrêmement intéressant et qui nous dit beaucoup sur la société, parce que on voit très bien que sept personnes n'ont pas pu se mettre d'accord. Et donc, il y a une impossibilité à imaginer cette femme ou une femme en train de tuer ses enfants. Et d'habitude, ce que l'on a dans les constitutions de jury, on a des jurys qui parviennent à se parler et à aboutir à une cohésion. Et je pense que cette question-là, elle fait clivage dans la société, mais je pense que ce serait la même chose dans la société française. C'est-à-dire qu'imaginer qu'une mère puisse tuer ses enfants sur d'une problématique psychiatrique n'est pas encore intégrée. Et puis, cette problématique psychiatrique n'est aussi pas connue, très peu connue. Et donc, ça dit beaucoup de la santé mentale et du niveau de la santé mentale qu'il y a aux États-Unis, puisque à la fois, cette problématique n'est pas connue du grand public, mais je crois que, et c'est d'ailleurs les manifestations qui étaient devant le tribunal, beaucoup de femmes ont manifesté parce que la prévenue n'était peut-être pas suffisamment suivie et elle-même était confrontée à des épisodes dépressifs qui auraient pu faire clignotant pour imaginer une psychose puerpérale. Parce que c'est bien une psychose puerpérale dont il est question et pas une dépression. Donc cela signifie que lors de l'accouchement et après l'accouchement, la mère va complètement changer de monde. Et ce n'est pas la dépression que l'on ressent après chaque accouchement, c'est vraiment une déconnexion et une problématique, souvent soit paranoïaque, soit de voix, soit de...
Voilà. Alors, maître Dominique, j'ai une question pour vous.
Oui, Isabelle Steyer, bonjour. Oui. En fait, on a un peu peur de cette justice américaine, c'est peut-être un peu une réaction primaire, mais qui est capable de coller des 50 plus 50 plus 50, 400 ans de prison. Mmh. Et là, eh ben, on a une justice qui, finalement, est capable de comprendre, puisqu'on dit souvent, juger, c'est comprendre.
Oui. Alors, je ne sais pas si elle comprend, ou si, justement, elle ne comprend pas. Parce que...
C'est comprendre l'accusé.
C'est-à-dire que les jurés n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc cela signifie aussi qu'ils ne sont pas allés jusqu'à l'irresponsabilité de cette femme. Alors même que on a bien compris qu'elle était confrontée à cette problématique psychiatrique. Donc est-ce que justement il n'y a pas une résistance à comprendre cela et à ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement? C'est-à-dire la déclarer irresponsable, donc l'emmener dans un hôpital psychiatrique, puisque après les faits, elle a quand même tenté de se suicider de façon extrêmement violente, ce qui suppose une psychose. Hein, c'est elle a tenté quand même de avec un couteau, je crois, de se couper le cou. Elle s'est coupée aussi les veines, et elle s'est défenestrée. Donc un suicide extrêmement violent. Donc est-ce que cela signifie que l'on ne veut pas aller jusqu'à l'irresponsabilité, mais qu'en même temps, on ne veut peut-être pas la condamner à, comme vous dites, des 50 ou des 100 ans.
Merci beaucoup. Merci, maître Steyer. Juger, comprendre, c'était l'une de nos interrogations aujourd'hui avec Dominique Rizet. On suivra évidemment ce dossier qui passionne, qui déchire et qui divise l'Amérique. En liberté à présent, c'est le titre de la BD signée Mathieu Sapin, édité chez Dargo, où nous accueillons Mathieu, sur ce plateau, merci d'être avec nous et vous êtes bien accompagné parce que vous êtes avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Alors, cette BD, c'est 12 mois d'immersion dans une maison d'arrêt, dans un commissariat, dans des hôpitaux, dans un hôpital psychiatrique, dans un centre de rétention. Donc, que des lieux où il n'y a pas de liberté. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Quel est le lieu le plus dur, le plus frappant, le plus enfermant finalement?
C'est difficile parce qu'il y a différents types de lieux. Moi, j'ai été particulièrement touché par un établissement pour mineurs qui se trouve à Marseille, où on voit donc des mineurs qui sont enfermés dans des conditions peut-être moins difficiles que pour des adultes, mais malgré tout, le fait que ce soit des enfants, c'est très touchant. Et après, il y a des lieux comme la prison de Fresnes où ça m'a particulièrement bouleversé aussi, mais là, c'est plus les conditions, on va dire la vétusté.
L'insalubrité, on peut parler d'insalubrité? À Fresnes.
Complètement.
En l'occurrence.
Mais Fresnes, on croise quand même. Moi, c'est la première fois que je vois des rats vivre dans les cellules, passer en faisant comme ça. Salut.
Parce que les rats font comme ça?
Ils font comme ça parce qu'ils sont tellement peu farouches.
Oui, ils sont presque domestiques.
Ils s'en vont pas. Ouais.
Des gros rats.
C'est pas. Et ils rentrent dans. Et la nuit, les prisonniers nous disent, on a peur, ils nous montent dessus.
Ouais. Mathieu Sapin, vous aviez déjà mis les pieds dans une prison?
Alors oui, j'avais fait une visite pour de une heure comme ça pour un jury, enfin comment dire, un concours de bande dessinée.
Chez Dargo.
Oui. Ouais.
Et donc là, vous êtes arrivé, on a fermé la porte derrière vous. Ça fait quel effet? Parce que là, c'est le début. On regardait ça avec Pauline tout à l'heure. C'est le début de la BD. Ouais. Là, on vous enferme, on vous voit arriver et vous dites la porte est fermée derrière vous. On entend le bruit.
D'abord, c'est le bruit de la serrure. On se souvient qu'il y a le clic qui vous enferme.
Oui,
on voit bien là.
C'est le bruit.
Et vous dites alors.
Oui, alors, parce que c'est le début de mon récit. En fait, je commence. Donc j'ai fait la demande de passer quelques heures dans une cellule. Alors c'est une cellule plutôt bien entretenue, celle-ci, puisque c'est à Vendin-le-Vieil, c'est une prison très haute sécurité.
Alors moi, j'y suis allée, c'est les cellules modèles, parce que d'abord elles ont été pour l'instant peu utilisées et elles sont ultra modernes par rapport à Fresnes, typiquement.
Voilà. Mais malgré tout, la sensation d'enfermement, on la ressent bien sûr. J'ai compté dans ma tête, il y avait 18 portes et grilles différentes successives entre l'endroit où je me trouvais et la sortie. Et le fait de ne pas savoir tout simplement quand est-ce qu'on va venir vous ouvrir, de ne pas avoir de téléphone portable, etc. Déjà, on commence un peu à ressentir cet enfermement, cette impossibilité d'accès aussi à l'extérieur, parce qu'il y a par la fenêtre, on voit rien. Il y a trois grilles, trois couches de grilles.
Donc il n'y a pas de lumière naturelle pour se figurer.
Il y a un halo naturel. Ouais.
Comment est-ce qu'on peut rendre ces lieux? Parce que, en fait, le point commun de tous ces lieux de privation de liberté, c'est sans doute peut-être l'insalubrité, mais le fait que ces lieux, vous dites, sont indignes de la République française. La France, on le rappelle, a déjà été épinglée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, et on va rappeler que c'est quand même une des mauvaises élèves de l'Europe en matière de densité carcérale. Et je voudrais qu'on voit ces chiffres, les chiffres de détention qui ont été fournis par le ministère de la Justice. On a près de 90 000 détenus, et c'est 43,5% de plus en un an. On a 63 303 places opérationnelles, et on a presque 8000 matelas au sol. C'est ça la réalité de la détention en France, Dominique Simonneau ?
C'est absolument ça. On est l'avant-dernier des pays européens en la matière. Quand je compare avec l'Allemagne, où les détenus, où il y a 20 millions d'habitants de plus que nous et 20 000 détenus de moins, 70% des détenus qui travaillent versus moins de 20% chez nous et ils sont un par cellule. Et leur taux de récidive, c'est ça qui devrait intéresser tout le monde, est beaucoup moindre que le nôtre. Parce que je pense que quand même la façon dont on traite les gens à l'intérieur rejaillit forcément sur la façon dont ils se conduisent dehors. On ne peut pas sortir de là en se disant « Vive la France, vive la République, vive nos grandes valeurs ».
Ah, vous savez, Dominique, vous avez été journaliste et c'est difficile de parler de la prison parce que certains de ceux qui nous écoutent disent « Ils sont là-bas, ils l'ont bien mérité, bien fait pour eux ». Quoi, la télé, la salle de sport, le... Vous avez connu combien de ministres de la justice, donc Dupond-Moretti, Darmanin. Non, mais depuis que vous êtes contrôleur.
Non, depuis que vous êtes contrôleur.
Journaliste, vous en avez
connu.
D'accord.
Non, en tant que contrôleuse, non pas en tant que journaliste.
Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin.
Alors, est-ce que tous les deux ont fait des choses pour la prison, ou l'un ou l'autre, ou plus l'un que l'autre?
Non, aucun.
Rien.
Aucun des deux n'a rien fait. Éric Dupond-Moretti, j'ai le regret de le dire parce que j'avais tellement confiance, je me disais.
On avait tous confiance.
On s'est tous dit ça y est, ça va changer. Il dit qu'il a été empêché de changer, mais la loi qu'il a prévue, qu'il a mise en œuvre, prévoyait déjà dans son étude d'impact plus 8000 détenus. Ça a été le cas.
Quant à Gérald Darmanin, il a mis en place les prisons de haute sécurité. Non, mais de manière factuelle, c'est lui qui a ouvert Vendin, c'est lui qui a ouvert Condé.
Mais c'est lui aussi qui n'a rien fait qu'aggraver la surpopulation carcérale en refusant de prendre les choses en main. C'est une décision politique qu'il faut prendre, mais pour le bien de toute la société. Les gens, il faut qu'ils sortent meilleurs de prison.
Bien sûr.
Il n'est pas question qu'ils sortent pires. Comme c'est pas un sujet, vous l'aurez noté, vous le savez, on le sait tous, nous les journalistes, qui attire particulièrement le public. C'est un sujet anxiogène qui ennuie tout le monde. Moi, combien de fois je me suis fait rembarrer là où je travaillais. Ouais. Tu nous emmerdes avec tes taulards. Bien pourtant, ça devrait tous nous concerner à cause de la récidive. Il faut que ces gens se réinsèrent à l'intérieur, que leur réinsertion commence dedans.
On a fait le même boulot, les mêmes rédactions, fréquenté les mêmes. Moi aussi, c'est vrai, quand j'essayais de vendre des sujets sur la prison, Parisien, Figaro, François, on me dit « Oh là là, la prison, arrête ça !» Ça emmerde tout le monde, c'est vrai que c'est bien dommage. Vous avez parlé avec des détenus, vous avez pu parler avec des prisonniers?
Oui, bien sûr. Ah oui, on a beaucoup... Donc, il faut expliquer que donc le travail de Dominique Simonneau consiste à faire des visites dans ces lieux-là.
Des rapports, des alertes.
Voilà, et donc c'est des visites de plusieurs jours qui consistent à s'entretenir avec et le personnel et des détenus. Et donc, moi, j'ai accompagné Dominique et ses équipes et j'ai bien sûr eu l'occasion de...
On parle à énormément de détenus.
Voilà, ouais, il y a beaucoup d'échanges.
Et qu'est-ce qui ressort de ces échanges d'abord de l'humanité, j'ose espérer, mais...
Oui, et puis une demande aussi, il y a une demande de s'exprimer, simplement. Il y a beaucoup de la part de ces personnes le besoin de décrire leurs conditions d'incarcération et puis tout simplement d'échanger. Et... parfois, il y a des moments d'humanité, des moments de aussi qui peuvent être difficiles psychologiquement, parce qu'on est confronté vraiment directement à cette réalité-là. Et c'est vrai que moi j'ai été, c'est une expérience qui m'a bouleversé. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué plus particulièrement?
Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Pour beaucoup, il y a l'absence comme le disait Dominique, de perspective, de pouvoir s'améliorer,
de devenir meilleur.
Oui, et donc une espèce de la part du personnel aussi, une résignation et qui je pense demanderait à être prise en compte, et il y a certainement des des initiatives à prendre. Oui.
Alors, on rappelle vos précédentes incursions, puisque vous aviez croqué l'Élysée, je me souviens, le ministère de l'Intérieur aussi, la campagne présidentielle de 2012. Vous avez traîné aussi avec Gérard Depardieu. Oui. C'est quoi le prochain ? C'est secret ?
Non, c'est pas secret, parce que ça a été annoncé. C'est sur le chantier de Notre-Dame que j'ai suivi. J'ai suivi tout le chantier. Donc, Notre-Dame a été réouverte, mais le chantier est toujours en cours. Mmh. Et donc là, je vais terminer bientôt cette prochaine BD.
En liberté, on le montre, c'est votre BD. Mathieu Sapin, chez Dargaud. 12 mois d'immersion en prison dans les lieux de privation de liberté. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous allons évoquer le procès Le Priol, celui qui ouvre demain pour juger ceux qui sont accusés de la mort de Federico Aramburu, ex-rugbyman argentin, tué à Paris. Nous avions reçu les parties civiles il y a un an. Place maintenant à la défense. Très dans un instant. C'est un procès qui s'ouvre demain devant la cour d'assises de Paris. Vous le voyez, tout le monde est en train de s'installer dans le box des accusés. Quatre personnes qui devront répondre de l'assassinat de Federico Aramburu, ex-rugbyman argentin, tué en plein Paris. C'était le 19 mars 2022. D'abord, le rappel des faits et les enjeux du procès avec Pierre-Louis Bousset.
Le 19 mars 2022, au petit matin, Federico Martin Aramburu se trouve avec un ami dans ce bar du boulevard Saint-Germain. Les deux hommes prévoient d'assister à un match de rugby le soir même. Mais juste avant 6 heures, une altercation éclate avec deux autres clients de l'établissement. Loïc Le Priol, à gauche de cette image, et Romain Bouvier sur la droite, deux militants d'extrême droite, anciens membres du GUD. Des vigiles les séparent, mais les esprits sont encore vivement échauffés. Federico Martin Aramburu et son ami quittent le bar à pied, puis sont rattrapés quelques instants plus tard par Romain Bouvier à bord d'une Jeep. L'homme dégaine une arme et tire plusieurs fois sur le franco-argentin qui se dirigeait vers lui. Romain Bouvier affirme avoir agi par peur.
Il est en train d'anticiper quelque chose dont il est sûr que ça va advenir. Peut-être d'ailleurs se trompe-t-il. C'est comme ça qu'il ressent les choses. Il est convaincu qu'il va être roué de coups de manière incroyablement violente par deux hommes qui sont très énervés.
Loïc Le Priol arrive à son tour sur les lieux et après une empoignade avec Federico Martin Aramburu, ouvre lui aussi le feu. Il tire les 6 balles de son chargeur. 3 d'entre elles atteignent mortellement l'ex-rugbyman au dos. Pour sa famille, aucun doute, il s'agit là d'un assassinat.
L'ensemble des magistrats du parquet et du siège et de la cour se sont tous accordés à dire que l'intention homicide est particulièrement caractérisée et que la préméditation l'est aussi.
Loïc Le Priol est arrêté en Hongrie, près de la frontière ukrainienne, quelques jours seulement après le meurtre. Romain Bouvier est de son côté interpellé près d'une abbaye dans la Sarthe. Les deux hommes doivent comparaître demain devant la cour d'assises de Paris. Le premier pour assassinat, le second pour tentative d'assassinat. Seront également jugés la petite amie de Loïc Le Priol ainsi qu'un complice ayant aidé Romain Bouvier à s'enfuir.
Alors avec nous, j'accueille en plateau Maître Hugues Vigier, l'avocat de Romain Bouvier. Bonjour Maître, merci d'être avec nous.
Bonjour.
C'est l'un des deux principaux accusés. Il faut préciser aux téléspectateurs qui nous regardent qu'on a reçu il y a un an dans cette même émission l'avocat des parties civiles, Maître Lebras. Donc cette fois-ci, place à la défense et nous allons nous intéresser à ces deux profils, Loïc Le Priol, donc poursuivi pour assassinat, et Romain Bouvier que vous défendez, jugé pour tentative d'assassinat. Et pour évoquer la trajectoire de Loïc Le Priol, j'accueille aussi Alexandre Gallien, écrivain. Pour le magazine Society, vous avez décidé de partir sur les traces de Loïc Le Priol, notamment ses 4 jours de cavale, on y reviendra. Précisons donc, comme dans le sujet, qu'il a été arrêté à la frontière hongroise. C'était dans la nuit du 22 au 23 mars 2022, 4 jours après la mort de Federico Aramburu. Merci donc à tous les deux d'être avec nous. Alors, Dominique, Loïc Le Priol et Romain Bouvier encourent tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité. Oui. Il faut bien préciser qu'il y en a un qui est jugé pour assassinat et l'autre pour tentative, mais que... Dans le droit français, c'est la même peine encourue.
Oui, l'intention vaut l'acte. Hein. Préparation d'un cambriolage, d'un braquage, c'est la peine encourue pour braquage. Pareil pour l'homicide. Hein. On rappelle, hein, Loïc Le Priol, lui, c'est pour assassinat.
Oui.
Romain Bouvier pour tentative d'assassinat. Et puis Lison, qui était la petite amie de Loïc Le Priol, pour complicité de tentative d'assassinat. Alors, moi, première question que j'ai envie de vous poser, Maître, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment au moment de la mort de Quentin Derenck à Lyon, hein, ce militant d'extrême droite. Est-ce que on a reparlé de l'affaire Aramburu en disant voilà, ça fait partie des meurtres commis par l'extrême droite. Moi, j'ai un point de vue différent, mais vous allez en discuter beaucoup à l'audience. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une affaire de type Thionbu, tout le monde a bu. On s'embrouille et on découvre que ceux qui ont tiré sont des types d'extrême droite. Et ensuite, ça devient un meurtre commis par l'extrême droite. Alors, est-ce qu'on va juger deux meurtriers à partir de demain ou est-ce qu'on va juger deux militants de l'extrême droite ?
Qui est-ce qu'on va juger? Je ne le sais pas, mais qui on doit juger, j'en suis certain. Oui. On doit juger deux meurtriers dans une affaire que je qualifierais de tristement banale. Et la connotation, notamment politique, n'a pas sa place ici. Elle a été, je pense, utilisée, voire instrumentalisée. Par ailleurs, le départ de la procédure, ce sont énormément de choses inexactes qui sont en tout cas médiatisées. Et sur cette base-là, je crois que pendant 4 ans, on a vécu avec l'idée de ce qu'on présentait à peu près comme une chasse à l'homme par des néo-nazis. On est à milieu de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités à discuter.
D'accord avec ça ?
Vous n'avez pas forcément la même lecture.
Si, j'ai à peu près la même lecture, quant au fait qu'en effet, il faut juger deux meurtriers présumés. Mm-hmm. Cependant, cette bascule dans la violence, elle tient au fait que sur les 4 individus appliqués, il y en a 2 qui étaient armés.
Ouais.
Et allez-y. Le fait que ces personnes-là soient armées et cette circulation des armes, on peut éventuellement aussi l'attribuer à des mouvances desquelles ils faisaient partie.
On va y revenir. Il y a 2 scènes et 2 temporalités. Il y a la terrasse du Mabillon, on est boulevard Saint-Germain, et puis il y a la scène de crime un peu plus loin. Et la préméditation est au cœur des débats, sans doute au procès qui s'ouvre demain. Maître, vous, pour être bien d'accord, pour bien comprendre votre axe de défense, vous contestez la préméditation, mais alors vous allez plaider quoi si vous la contestez?
On conteste tout en l'état. Ah. On conteste l'intention homicide. Romain Bouillet est poursuivi pour une tentative d'homicide, on conteste l'intention homicide,
ouais.
Et on conteste par ailleurs la moindre préméditation. La seule chose qui est reconnue, mais qui pour l'instant n'est pas poursuivie, mais on demandera à ce qu'elle se soit mise dans les débats, ce sont des violences volontaires avec armes, avec une idée d'ailleurs, j'entends mon voisin dire que la bascule dans la violence, ce sont 2 hommes armés. Non, la bascule dans la violence, le moment initial des violences, c'est d'abord, dramatiquement, Federico Martinarum Borou, et ensuite John Egarty. Et ça, c'est le départ des violences. Ensuite,
ça c'est l'altercation. Ça c'est pour bien comprendre. Ça c'est l'altercation sur la terrasse du Mabillon.
Oui, mais elle est essentielle. Sans ça, on comprend rien.
C'est la scène 1.
Bien sûr.
Ok. Que dit votre client sur les faits et sur l'usage d'une arme? Il tire combien de coups? Ça se passe comment?
Alors, il tire 4 coups. D'ailleurs, il dit avoir pensé n'en tirer que 3. Il dit tirer des coups en voulant faire peur pour partir, parce que on lui a menti en réalité. La scène pour lui était terminée. On lui a dit, d'ailleurs, c'est en procédure, qu'il fallait qu'il rejoigne son ami qui était en train de se faire massacrer par les rugbymen, ce qui était faux. Et donc, il est parti avec Lison Rochemire à la recherche de son ami. Il voit les 2 rugbyman, ne voit pas son ami, imagine que peut-être il a été roué de coups, il se trouve dans quelques portes cochères, descend du véhicule pour demander où il peut se trouver, et là, voit 2 hommes, dont Federico Martinarum Borou, arriver extrêmement déterminé, dit-il en l'insultant et en le menaçant. Ça, ce sera sa parole. Et puis, pour le reste, les voyant arriver et pensant qu'il est en train d'encourir lui-même des violences graves, il va sortir son arme, ne veut toucher personne et touchera 2 fois Federico Martinarum Borou. Et je l'indique d'ailleurs, sans aucune séquelle physiologique sérieuse, personne n'avait remarqué qu'il avait été touché, même pas son ami qui était à 3 mètres. Et 1 minute après, on voit Federico Martinarum Borou qui court en direction de Loïc Le Priol, comme si effectivement il n'avait pas été affecté par des blessures superficielles.
Ce sont là, il me faut la version, si vous voulez, dans les yeux de Loïc Le Priol, parce que sur le même thème, combien de coups et à quel moment est-ce qu'il sort son arme? C'est ça qui est intéressant, c'est de voir le double regard.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis ni avocat de Loïc Le Priol.
J'entends.
Ni avocat des parties civiles, je suis écrivain.
Mais vous avez le récit dans la tête.
J'ai le récit dans la tête.
Est-ce que vous pouvez faire cet exercice intellectuel pour moi?
Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais cependant, j'essaie dans mon travail de ne pas forcément commenter le procès pour ne pas troubler la sérénité des débats. Parce qu'il y a un procès en assises qui commence demain.
Après, factuellement, on peut donner le nombre de tirs, etc.
Je crois que Loïc Le Priol, si je me souviens bien, tire 6 coups et perfore des organes vitaux.
Et Romain Bouvier tire 4 fois et l'autopsie dit que les 4 balles qu'il a tirées ne sont pas mortelles. Sur le système de défense, ça va être compliqué parce qu'ils sont 2 dans le box. Le vôtre, Romain Bouvier, est moins impliqué dans le dossier d'instruction, on vient de le dire, puisque ces balles ne sont pas mortelles, les balles qu'il a tirées, que Loïc Le Priol.
Néanmoins, ils encourent la même chose.
Absolument. À quel moment ça va être compliqué? Est-ce que, pour défendre le vôtre, Bouvier, vous enfoncez Le Priol? À quel moment vos défenses avec les avocats de Loïc Le Priol vont se rejoindre et à quel moment elles vont diverger?
En réalité, moi je considère qu'il n'y a aucune espèce de difficulté et pas de risque de conflit d'intérêts, si je puis dire, entre l'un et l'autre. La chambre de l'instruction a fait son travail, ce qu'elle devait faire depuis le départ, ce que le juge d'instruction aurait dû faire, et a considéré qu'on parlait de 2 scènes distinctes. Si d'ailleurs ça avait été une scène unique, ils auraient tous les deux été renvoyés pour assassinat, ce pourquoi Romain Bouvier était initialement mis en examen. Ça n'avait aucune espèce de sens.
Donc il y a trois scènes en fait. Il y a la terrasse, la première scène et la deuxième scène.
Alors la première scène, elle n'est pas poursuivie en tant que telle. Au reste, si on avait poursuivi les violences, on les aurait reprochées. Alors Federico Martina Rumbrou, dramatiquement, il est mort. Mais on les aurait reprochées davantage au rugbyman qu'on les aurait reprochées à Romain Bouvier ou Loïc Le Priol. Romain Bouvier, il en est d'abord spectateur avant d'en être victime. Il ne réussit pas à donner un seul coup, il en reçoit. Quand il veut venir au secours de son ami qui s'est fait violenter sans sommation de manière extrêmement sérieuse.
Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Loïc Le Priol pour justifier d'avoir utilisé une arme. Il dit, et c'est en procédure, la peur, c'est parce que j'ai eu peur, je me suis cru en Afrique. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs le parcours de Loïc Le Priol et pourquoi est-ce qu'il fait référence aux opérations spéciales puisqu'il a servi là-bas ?
Oui, bien sûr. Alors, Loïc Le Priol, c'est un ancien marin qui a intégré l'école des mousses quand il avait 16 ans. Il est devenu le plus jeune commando marine de sa promotion à 18 ans et entre ses 19 et ses 21 ans, il a été envoyé près de 14 mois en terrain d'opérations spéciales. Opérations spéciales qui sont quand même assez souvent des terrains très dangereux et des terrains qui provoquent sans doute chez un jeune homme des réactions parfois compliquées psychologiquement en termes de post-traumatisme. Cependant, il est rentré, lui, de Djibouti, il me semble, en 2015. Donc, 7 ans avant les faits. Et c'est vrai que ce syndrome post-traumatique, c'est un moyen de défense qui a été utilisé par le passé, par Loïc Le Priol, à plusieurs reprises.
Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Il a quitté l'armée, donc avant la mort, le meurtre de Federico Aramburu. Qu'est-ce qui fait Loïc Le Priol pendant ces 7 années?
Ouais, bien sûr. Alors, il y a eu une petite période de flou autour du ministère des Armées, parce que l'administration est parfois un peu lente. Donc, il a continué à toucher sa solde de militaire de manière partielle pendant plusieurs années. Il a rejoint un groupe qu'il fréquentait déjà au départ, qui s'appelle le groupe Union Défense. Qui est un groupuscule d'extrême droite.
Le GUD.
Voilà. Qui est plus connu sous ce nom-là, tristement connu d'ailleurs, qui est un groupuscule d'extrême droite. Et pendant ces années-là, il va s'essayer à plein de choses différentes. Il va se faire de nouvelles amitiés, il va essayer de se remettre dans la vie civile. Il va monter une marque de tour de cou tactique. Il va travailler un petit peu avec son père dans le garage de son père qui loue des véhicules de collection. Véhicule qui va d'ailleurs être impliqué dans l'affaire de manière un peu indirecte, parce que c'est avec ce véhicule qu'ils arrivent au Mabillon.
Oui, absolument.
Et c'est avec la Jeep que Lison Rochemire et Romain Bouvier empruntent le boulevard Saint-Germain après la bagarre. Ensuite, ils montent une marque de vêtements qui s'appelle Bab Tout Solide Certifié, qui a eu un petit écho médiatique. Il a été invité dans une ou deux émissions, il a fait quelques interviews. Au bout de 2 ans, cette marque, elle arrêtera de fonctionner, il fermera cette entreprise-là et il rejoindra le domaine familial et deviendra oléiculteur. Entre-temps, il y a une série d'infractions qui est commise, notamment un accident de la voie publique et une affaire qui est un petit peu plus médiatisée, qui est un passage à tabac pour lequel il a été condamné, dans lequel Romain Bouvier était également impliqué.
L'affaire Klein.
L'affaire Klein, exactement, où ils
sont
compris.
C'est un ancien patron du GUD.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Tabassage en bonne et due forme et filmé d'ailleurs.
Ouais. Filmé en bonne et due forme. Une scène assez glaçante par ailleurs et pour des raisons qui sont ma foi assez floues. On invoque parfois la violence que Édouard Klein a pu avoir auprès de diverses compagnes. Une autre fois, on dit qu'Édouard Klein aurait parlé à la police. Enfin, c'est les motivations de ce truc-là sont assez floues.
Et Romain Bouvier, lui, sa vie, c'est quoi avant la mort de Federico Rambourg?
C'est très différent. C'est un jeune homme qui s'inscrit dans des études de droit. Sa mère est une consoeur.
Une avocate très connue.
Oui.
Une excellente avocate.
Absolument. Et il veut lui-même, je pense, devenir avocat. Et puis, peut-être que son assiduité fait un peu défaut. En tout cas, il se pose des questions, il hésite, il se cherche un peu. Je pense qu'à un moment donné, il songe plutôt à devenir écrivain. Et donc, il est dans ses études à Assas, qui est un lieu parfois porteur dans des rencontres sur un plan politique plutôt connoté à droite, évidemment.
C'était d'ailleurs un vivier de recrutement pour le GUD dans les années
94. Ça l'a été.
Le
GUD a fait l'objet d'une dissolution, mais indépendamment de ça, en tout cas, moi j'ai bien connu, j'ai été étudiant et opposé tout à fait au GUD, et d'ailleurs je le serai toujours aujourd'hui. Et vous voyez que ça pose aucune difficulté, c'est-à-dire qu'Romain Bouvier, les problèmes politiques ne sont pas en jeu dans ce qui s'est passé ce soir-là, du tout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont liés dans leur parcours, puisque leurs routes vont se croiser, notamment avec ce tabassage.
Oui, et donc, avec une vraie amitié.
Ouais, c'est-à-dire que mais l'un n'exclut pas l'autre, en fait.
Non, et je pense qu'il y a de la part de Romain Bouvier, chez Loïc Le Priol, quelque chose que lui n'a pas. Loïc Le Priol, il est dans l'agir. D'une certaine manière, ça doit un peu fasciner ce jeune homme qui, lui, est plus un intellectuel, qui se cherche, et qui doit être assez impressionné par le parcours d'un Loïc Le Priol. Et je dis pas qu'il y a un effet d'entraînement de l'un ou de l'autre. C'est pas le propos, on se défaussera pas. Et encore une fois, le fait que maintenant il y a deux scènes distinctes, toutes ces questions-là n'ont pas leur place. Il y a plus de difficultés à cet égard. Okay. Mais il y a une vraie amitié et il ne s'agit pas aujourd'hui de la remettre en cause. Elle était sincère.
C'est une lecture que vous partagez ?
Oui, c'est une lecture que je partage totalement. Pour la petite anecdote, c'est vrai que Romain Bouvier avait envisagé une carrière d'écrivain. Je crois même qu'il écrit une nouvelle dont Loïc Le Priol
préface.
Non, il la préface pas, mais je crois qu'il est plus ou moins inspiré. Enfin, il inspire plus ou moins un des personnages. D'accord. Et je crois qu'à un moment dans cette nouvelle, il surnomme les Waffen-Assas. Voilà.
Les Waffen ?
Les Waffen-Assas.
Ah oui, Waffen-Assas, c'était
les Waffen-Assas.
Ouais, c'était les troupes allemandes.
Il y a eu une reconstitution, Maître Vigier, en novembre 2023. Qu'est-ce que ça a donné ? En général, ça peut être fécond, les reconstitutions. Est-ce qu'il y avait besoin de fixer les choses ? Est-ce que l'intention homicide a pu, vous allez me dire que non, être démontré, mais qu'est-ce que ça a permis de cette reconstitution ?
Peut-être qu'en amont de la reconstitution, il faudrait dire qu'il y a dans ce dossier un élément absolument essentiel, sans lequel d'ailleurs les qualifications n'auraient pas été celles-là, j'en suis certain, et on aurait continué le récit qui a été fait au départ, cette chasse à l'homme. Il y a des vidéosurveillances qui nous disent énormément de choses. Alors, elles ne disent pas tout, on n'a pas le son, on n'a pas les paroles, il manque évidemment certains éléments, donc la reconstitution peut avoir son intérêt pour essayer de combler ces zones d'ombre, mais il y en a somme toute assez peu. Et la vidéosurveillance a changé radicalement la présentation faite à l'origine de cette procédure. Voilà. Donc la reconstitution ensuite, quel intérêt elle a eu ? C'est un peu particulier. Moi, j'y étais pas. J'étais devant une autre cour d'assises. Ma collaboratrice, et d'ailleurs Sophie Régascon, qui intervient avec moi dans la défense de Romain Bouvier, était présente toutes les deux.
Et elles me
disent, il ne veut pas sortir du fourgon parce que les médias sont très près et que évidemment on peut pas assurer une confidentialité de ce qui va se dérouler et qu'il ne souhaitait pas être vu, filmé. Il avait une incarcération extrêmement difficile à la santé à raison notamment de la médiatisation extrême et je le dis mensongère qu'il y avait eu. Je fais aucun reproche au parti civil. Alors conseil peut-être. Pas aux parties civiles. Les parties civiles, elles sont dans la douleur, elles ne connaissent pas tout le dossier. On a d'ailleurs jamais voulu communiquer avant. Là, ça fait une semaine qu'on communique. Avant, on ne le faisait pas.
D'accord.
Est-ce qu'ils sont toujours amis, copains
Même en détention.
Romain Bouvier et Loïc Le Priol.
C'est une question un peu compliquée, en tout cas pour y répondre. Ça fait 4 années qu'ils sont séparés, avec évidemment interdiction d'entrer en contact. Oui. Bon, donc on le verra
au procès, c'est aussi.
En tout cas, il y a pas de. Il me paraît clair qu'ils ne vont renier ni l'un ni l'autre l'amitié qu'ils ont eue. Alors, est-ce qu'elle s'est arrêtée ce jour-là ? Ça, c'est un autre problème. Chacun aura évolué. Le temps carcéral aussi fait évoluer. Et le temps carcéral avec, qu'on soit impliqué ou non. De toute façon, une implication physique dans ce drame absolu. Voilà. Bon, moi, je vois le visage de Federico Martina Rumbrou. Je me le rappelle très bien. J'adore le rugby. C'était un joueur merveilleux. On sort pas indemne, mais même si, quelle que soit la personne en face, mais on sort pas indemne d'une histoire comme ça.
Il y a une autre personne importante clé dans ce procès qui va venir, Sean Hegarty, qui a vu son ami mourir dans ses bras. Il a donné une interview à nos confrères de Rugby Rama. Et que dit-il? D'abord, on sent qu'il y a un syndrome post-traumatique très fort, là aussi, de la difficulté de se relever après une telle épreuve. Et je voudrais donner 2 citations. Je n'arrivais pas à me dire que c'était possible. Le cerveau n'est pas prêt pour une telle violence, ça c'est pendant le déroulé des faits. Et quand on lui pose la question de comment il se sent aujourd'hui, il dit aujourd'hui je suis là, j'ai cette chance, mais la seule question que je me pose c'est est-ce que Federico ne m'a pas sauvé de quelque chose ? Et ça c'est des questions lancinantes qui vont être très dures à porter. Ce procès aussi ça va être l'occasion, il va y avoir par la force des choses une confrontation entre le survivant, celui qui a vu son ami mourir dans ses bras, et les deux co-auteurs présumés. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, ce que ça m'inspire, c'est ces 4 parcours, ces 4 destins qui se rencontrent à un endroit quand même relativement sombre, hein, qui est le Mabillon à 5 heures du matin, qui est un endroit globalement très difficilement fréquentable et de toute façon un endroit de noctambule.
Pourquoi difficilement fréquentable?
Parce que globalement, enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, maître,
mais je connais pas le Mabillon à 6 heures du matin.
Mais passer 2 heures du matin, le seul débit de boisson ouvert.
Ah oui, ce que vous dites, c'est que c'est un rendez-vous
oui,
de soir.
Ouais, exactement. Ah oui, voilà. J'ai pas voulu le dire comme ça, mais
si vous pouvez.
Mais c'est un peu ça.
C'est là qu'on vient se finir s'alcooliser, c'est ça, non?
C'est un des points ouverts. Voilà.
Je crois que Chenet Gartulli et Federico Martina en Mourousse sont venus y manger un hamburger parce qu'ils avaient faim.
Et que la soirée s'est prolongée.
Voilà.
Okay.
Et que la soirée s'est prolongée. Et ces quatre vies qui basculent. Il y a un point de bascule absolument dramatique. Donc c'est ça que ça m'inspire aujourd'hui. Et encore une fois, je voudrais éviter au maximum de troubler la sérénité des débats de demain.
Oui, oui, oui.
Et de commenter l'affaire en elle-même.
Bien sûr.
En revanche, le travail que j'ai fourni pour Society, ça a été de décrypter la personnalité d'un des deux auteurs.
Loïc Le Priol, et en l'occurrence, sa cavale. Vous pouvez quand même nous raconter ces quatre jours en pointillés ou vous voulez pas?
Ah si, si, et non.
Ça démarre sur la scène de crime.
Ça démarre sur la scène de crime. Alors, il y a plusieurs taxis qui sont pris au départ. Il se rend d'abord chez Romain Bouvier, d'ailleurs, parce qu'il cherche quelqu'un qui a des connaissances en droit, qui pourrait l'aider. Parce que lui déclare ne pas du tout savoir ce qui s'est passé. Lui, il déclare avoir tiré, avoir pris la fuite.
Il a pas dit quand même appelle un avocat ou l'avocat va t'appeler?
Il se rend en premier chez son avocat. Mm-hmm. Alors, un samedi matin à 6 heures, je pense qu'il n'y a pas d'avocat qui soit assez zélé pour avoir leur bureau ouvert. Il va à côté de chez Romain Bouvier, il emprunte un portable, il écrit un texto à Lison.
Sa petite amie.
Sa petite amie, il a pas de réponse. Mm-hmm. Il prend le train vers Draguignan et vers la demeure familiale. Là-bas, il se repose un peu et quelques heures plus tard, donc le samedi soir, hein, puisque ça a lieu dans la nuit du vendredi au samedi, le samedi soir, il prend la Twingo de sa sœur et il décide de rouler vers le front ukrainien.
Direction l'Ukraine.
Donc Draguignan, l'Ukraine. Enfin, moi, c'est un trajet que j'ai refait avec une très vieille voiture.
Ah oui.
Pour
vous mettre un peu dans les pas, sur les traces.
Pour essayer de comprendre, ouais. Okay. Mais bon, c'est beaucoup plus un dispositif littéraire que journalistique, parce que je suis écrivain et c'est comme ça que je travaille. Et donc j'ai refait cette route-là jusqu'à d'abord le poste frontière ukrainien.
Là où il s'est fait arrêter.
Uh-huh. Et aussi en Ukraine, à Lviv, puisqu'il y a un élément de géolocalisation dans le dossier qui dit qu'un des portables avec lequel il est trouvé a borné en Ukraine. Lui dit ne pas être rentré.
D'accord.
Le téléphone, lui, est rentré.
Votre client, lui, il a été arrêté près d'une abbaye, c'est ça?
Oui, alors c'est un parcours peut-être qui peut paraître un peu particulier, mais qui mérite au moins un mot d'explication.
Oui.
C'est qu'il a tiré. Il est convaincu de n'avoir pas touché. Il dit d'ailleurs ne l'avoir pas voulu.
Oui.
De fait, il n'a touché aucune zone vitale, on le sait. D'ailleurs, même la chambre de l'instruction l'écrit en disant c'est une tentative qui n'a manqué son effet parce que vous n'avez pas touché de zone vitale. Et ça aura une incidence.
La victime va repartir.
La victime n'est quasiment pas affectée. Enfin, elle recule parce qu'il y a des tirs et elle se met un peu à l'abri. Et Romain Bouvier part en courant, persuadé d'ailleurs qu'il doit être suivi par les deux hommes. Il ne l'est pas et une minute après, il y a le drame qui va se produire et lui est déjà parti derrière au moins deux blocs d'immeubles en sorte qu'il n'entend rien, ça on en est absolument certain.
Okay.
Et donc quand il part et qu'il entend que Federico Martina Rumburu est mort, il est persuadé que c'est lui qui lui a donné la mort. Il ne sait pas d'abord que Loïc Le Priol a tiré, et quand on va dire qu'il a tiré, on raconte des choses tellement inexactes, par exemple qu'ils étaient tous les deux dans la Jeep, qu'ils ont tiré ensemble.
Raison pour laquelle il a pris la cavale
il part dans ce contexte-là parce qu'il sait qu'il a tiré sur la voie publique, qu'il était en contrôle judiciaire, qu'il n'avait pas le droit de voir Romain Le Priol, qu'il n'avait pas le droit de porter d'armes. Bon, bref, toutes choses qui font qu'on part parce qu'il aura des comptes à rendre. Mais pour lui, pour des coups de feu qui n'ont même pas touché l'homme qui était en face de lui. Mmh. Donc ça lui fera une autre procédure correctionnelle. Mais
okay.
Il part et il apprend la mort de Federico Martina Rumburu. Il est convaincu d'en être l'auteur.
Mmh.
Et là, il est confronté à l'idée qu'il a tué un homme.
Donc il ne veut pas se rendre, donc
non,
il fuit.
Non, précisément pas. Si vous voulez, l'abbaye de Solesmes, c'est peut-être pas le meilleur lieu pour fuir sérieusement. Donc je crois qu'il s'y rend avec l'idée que, il a besoin de faire le point avec lui-même. Il vient de tuer un homme, c'est ce qu'il pense.
Mm-hmm.
Bon. Et puis finalement, il est interpellé.
Mais quand même, la bagarre, des bagarres, il y en a tout le temps.
En état d'ébriété, on le rappelle.
Ce que vous disiez tout à l'heure, vous vous êtes bien complétés tous les deux. C'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre d'extrême droite, type d'extrême droite qui vont tuer quelqu'un parce qu'ils l'aiment pas. En revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant, c'est qu'ils ont des armes. Et les armes, ça pose problème quand même. Oui. Parce que quand on sort avec des copains, si ça avait été une simple bagarre entre les deux rugbyman et puis les deux jeunes du GUD, c'était une bagarre, quoi.
Comment ça se fait qu'ils aient ces armes ?
On est dans autre chose. Il y a des armes. Et ces armes, elles viennent d'où ? Qu'est-ce qu'on va vous le demander ? On va vous dire pourquoi est-ce qu'on sort avec un gun, avec un, pardon, avec un pistolet, un revolver ?
Je suis d'accord avec vous, mais vous me surprenez un peu en disant sinon ça aurait été une simple bagarre. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de simple bagarre. La violence est une chose épouvantable. Oui,
non, mais quand vous rajoutez les armes,
Je suis d'accord, on est dans un autre degré, un autre niveau.
Une bagarre.
Oui,
j'enlève le simple.
Oui, mais je peux vous dire que même si l'issue est dramatique et que la victime c'est Federico Martina Rumburu, il faudra parler de tout, y compris de la violence initiale, qui est un geste qui, le même geste, je l'ai vu entraîner la mort. C'est le geste sur Loïc Le Priol, dont je ne suis d'ailleurs pas le conseil. C'est un geste sans sommation sur un homme au petit matin qui a trop bu, qui doit être fatigué, où on tire la capuche très fortement vers l'arrière. Normalement, c'est la tête qui vous arrête. Ça peut être un hématome sous-dural. Le lendemain matin, vous êtes éventuellement mort. Et en fait, moi, je me demandais toujours comment Loïc Le Priol n'avait pas touché le sol, comment il avait eu le temps d'avoir un réflexe. Il ne l'a pas. C'est qu'il y a un tabouret qui est derrière la chaise, qui arrête la chaise, et que donc, la chaise étant à mi-parcours, il tombe sur le côté, et il n'a pas la tête qui cogne. Sinon, il n'y a pas de bagarre.
Mais ça me dit pas comment ils ont les armes.
Et donc, c'est pour ça que je dis, attention, attention, quand on parle de violence, bon, bref. Mmh. Et ensuite, le fait qu'ils soient armés pose évidemment difficulté, qu'ils le soient tous les deux. Et là, peut interroger, et il est légitime de se demander, est-ce que ça a quelque chose à voir, est-ce que ça nous dit quelque chose de leur pensée politique?
Ou de la préméditation.
Alors, la préméditation, sans doute pas, même si elle est retenue, mais pour moi, c'est complètement aberrant, et je le dirai évidemment à la Cour. J'entendais tout à l'heure Yann Lebras, quand vous avez fait le mémo initial, disant, il y a quand même plusieurs juges qui ont considéré que, non, ils ont considéré qu'il y avait des charges. Ça n'a rien à voir avec la preuve, et sinon l'audience n'aurait pas d'intérêt. Ces gens-là ne sont pas jugés, ne sont pas condamnés.
Il y a des charges suffisantes pour que le procès s'ouvre demain.
Pour qu'on leur reproche ce qu'on leur reproche. D'ailleurs, moi je considère qu'il n'y avait pas de charges suffisantes, mais en tout cas pour qu'il y ait des preuves, c'est autre chose. Bon, ils ont des armes. Pourquoi est-ce qu'ils en ont ? Cette question mérite d'être posée.
Ils ont peur de quelqu'un, peur de quelque chose ou une intention en les prenant ?
Moi je vais parler que pour Romain Bouvier, je crois que d'ailleurs que Loïc Le Priol en dit autre chose en ce qui le concerne. Pourquoi il n'y a pas de préméditation ? C'est parce qu'ils ne sont pas allés les chercher. Vous êtes victime de violence, vous êtes fait taper dessus, vous êtes en colère, vous rentrez chez vous, vous allez chercher votre arme, vous venez avec votre arme, là, il y a sans doute une préméditation,
c'est
évidemment.
C'est pas ce qui s'est passé.
Pas du tout. Ils les avaient l'un et l'autre sur eux. Première scène, par exemple.
Mais ils reviennent. C'est le retour qui pose problème.
Mais je l'ai dit dès le départ. Romain Bouvier ne revient que parce qu'on lui a menti et qu'on lui a dit ton ami est. Et c'est incroyable. Celui qui a menti le fait en disant pour moi, il avait fini sa discussion avec le portier et je ne voulais pas que le trouble de voisinage se poursuive, donc je lui ai menti. Bon, c'est un truc dingue. Ça, c'est une responsabilité causale essentielle.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans notre émission, de nous avoir éclairés. On le rappelle, le procès ouvre demain à 14h30 devant les Assises de Paris. On suivra ça attentivement, Dominique. La semaine prochaine, c'est vous qui gardez les clés de la maison. Affaire suivante avec François Gapillan. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info, avec Karine de Ménonville et Jérémy Brossard. Tout de suite, c'est la météo.